Radio Franca. Radio Franca, c'est la radio des enfants. Retrouvez toutes les émissions sur franca-on-r.fr.
Bonjour, la classe de 6ème B est contente de participer à cette radio et va tenter de répondre aux questions que tout le monde se pose sur l'histoire et la géographie. Tout d'abord, comment la Terre a été créée ? Eva et Léna se sont renseignées pour nous.
Oui, bonjour à tous. La création de la Terre remonte à 5 milliards d'années environ. Un nuage de poussière formé de débris d'étoiles explosées, composé de fer, de métal, de l'or ou des débris radioactifs comme l'uranium, se densifie pour former une planète qui ressemble à la Lune. C'est la Terre primitive. Il ne se passe rien d'extraordinaire durant 400 millions d'années jusqu'à ce qu'une énorme météorite percute la Terre. Suite au choc, des débris sont projetés et entrent en orbite autour de la Terre. Ils tournent, se regroupent pour former un anneau puis une boule. C'est la Lune qui s'éloignera petit à petit de la Terre.
Vers moins 3 milliards d'années, la pression monte en flèche au centre de la Terre, si bien que la croûte terrestre se déchire. La surface de la Terre, bombardée par des comètes, n'est que lave en fusion, cachée par d'immenses volcans. Mais ces volcans rejettent des gaz, l'azote, la vapeur d'eau et le gaz carbonique forment alors l'atmosphère primitive. Certains chercheurs pensent que l'eau serait venue des comètes. Il y aurait eu plus d'un million d'impacts énormes, soit un par mois à cette époque primitive. Les comètes étaient formées de poussière et de glace. Sous la violence des impacts, la glace se serait évaporée et aurait formé des nuages de vapeur d'acide et chaude.
La Terre se serait refroidie lentement. La vapeur d'eau est donc devenue pluie. Cette pluie durera plus d'une centaine de millions d'années, formant ainsi des rivières et des lacs avant de former les premiers océans, couleur vert olive, source de la vie. Les océans sont acides, l'atmosphère toxique et la surface terrestre bombardée d'astéroïdes. Mais malgré ces conditions extrêmes, de nombreux scientifiques pensent qu'une forme de vie primitive pouvait déjà voir le jour. On peut donc penser que la vie est apparue sur Terre il y a environ 3,8 milliards d'années ou même avant. Des chercheurs travaillent au Groenland sur les roches primitives qui pourraient contenir la trace chimique des tout premiers microbes.
Et à partir de quand l'homme apparaît-il ? Et où apparaît-il ?
Les premiers hommes ne sont qu'apparus qu'il y a 200 000 ans en Afrique. Finalement, à l'échelle de la Terre, les hommes sont très jeunes.
Merci les filles pour vos explications. Je donne maintenant la parole à Pauline qui va vous parler de la couleur du ciel.
Sur la planète Terre, le ciel est bleu ou blanc s'il y a des nuages, voire gris si l'orage n'est pas loin. Ces couleurs sont simplement dues à la présence de notre atmosphère, dont les molécules absorbent certaines longueurs d'onde de rayonnement solaire pour faire ressortir certaines couleurs plus que d'autres. Le bleu du ciel est donc le résultat de la diffusion de la lumière du soleil par l'atmosphère. En fait, la lumière du soleil est blanche, mais en réalité, c'est un mélange de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Comme tout le monde le sait, il y a 7 couleurs dans l'arc-en-ciel. Cette lumière voyage sous forme d'ondes de différentes longueurs et chaque couleur a sa propre longueur d'onde. Quand les rayons du soleil entrent dans l'atmosphère, ils rencontrent les atomes, les molécules d'air, les gouttes d'eau et la poussière dont est constituée l'atmosphère. Les molécules d'air vont alors diffuser la couleur bleue en priorité.
Alors pourquoi le soleil est-il rouge quand il se couche ?
Parce que le bleu n'arrive plus jusqu'à nous. Le soir, la lumière traverse une couche d'air plus épaisse car les rayons du soleil arrivent sur Terre en étant penchés. C'est donc la couleur rouge qui apparaît car elle a une longueur d'onde plus importante.
Pourquoi peut-on voir parfois des arcs-en-ciel dans le ciel ? C'est dû à quoi ?
L'arc-en-ciel n'est rien d'autre que la lumière du soleil à laquelle les gouttes d'eau font subir un traitement choc. En fait, les rayons du soleil passent à travers les gouttes d'eau devant nous et il se passe quelque chose de très étonnant. Cette lumière blanche est décomposée en 7 couleurs.
Merci Pauline. Alors, après le ciel, nous allons nous intéresser aux océans. Anthony, peux-tu nous expliquer pourquoi la mer est-elle salée ?
Bonjour Matt, et bonjour à tous. Si la mer est salée, c'est à cause de l'érosion. Quand la Terre s'est formée, l'eau acide a ruisselé sur la Terre et fonction du relief et a créé les rivières, les fleuves, les mers et les océans. Par le mécanisme de l'érosion, l'eau acide s'est chargée en sels minéraux qu'elle a transportés jusqu'au réservoir final, c'est-à-dire la mer ou l'océan. Depuis, le sel n'est jamais reparti.
Et l'eau de la pluie et les lacs alors ? Pourquoi eux ne le sont pas ?
L'eau des lacs retourne dans l'océan Il serait donc logique que la pluie soit salée. Cependant, quand l'eau s'évapore dans des océans pour former des nuages, les molécules d'eau sont concernées par l'évaporation. Le sel reste dans les océans. Donc, les lacs et les rivières ne sont pas salés car ils sont tout simplement alimentés par de l'eau de source.
Merci Anthony. Christopher va maintenant nous parler des dinosaures. Quand ont-ils vécu? Quand et pourquoi ont-ils disparu?
Les dinosaures sont apparus il y a à peu près 230 millions d'années et ils ont vécu pendant 165 millions d'années et ont donc disparu il y a 65 millions d'années, bien avant l'apparition des hommes. Après, qu'un astéroïde d'environ 10 km de diamètre s'écrase sur l'actuel golfe du Mexique et d'épouvantables éruptions volcaniques secouent l'Inde actuelle.
Plus de 90% des dinosaures se nourrissaient de végétaux, mais certains étaient carnivores, c'est-à-dire qu'ils mangeaient d'autres animaux. Les dinosaures les plus gros pesaient jusqu'à 60 tonnes et mesuraient jusqu'à 18 mètres de haut et 30 mètres de long. À cause d'un astéroïde qui nous aurait percuté, il y a eu plein de fumée qui empêchait les rayons du soleil de pénétrer et donc il n'y aurait plus eu de lumière pendant un an et demi sur notre planète. La température à la surface de la Terre aurait chuté brutalement. Alors la végétation ne poussa plus et les dinosaures ne pouvaient plus se nourrir. Ils ont donc disparu.
Comment une météorite a-t-elle pu faire autant de dégâts?
La chute de la météorite a pu déclencher des incendies de forêt. Car au moment de l'impact, la température de l'atmosphère est montée à 2000 degrés. Ces incendies auraient donc consommé tout l'oxygène est dégagé de grandes quantités de gaz carbonique et d'oxyde de carbone, ce qui aurait asphyxié les rescapés de l'impact, du raz de marée et de l'incendie. Mais on ne sait pas combien de temps ils ont mis pour disparaître. Il reste des zones d'ombre. Les paléontologues continuent de chercher des informations dans le sol.
Merci Télia et Christopher. Voilà pour cette première partie. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour notre deuxième partie. A tout de suite.
Je sais pas pourquoi ce matin je suis très en colère, mais je laisse rien paraître devant ma fille et sa mère. Bisous, bonjour, ennui, cafetière. La jolie vaisselle que nous a donnée grand-mère, j'aimerais tout foutre en l'air. Ouais, j'y pense des fois, les jours se ressemblent, comme ma fille et moi. Allez chérie, dépêche-toi, on va être en retard. Dis bonjour aux voisins, au revoir connard. Toujours bloqué dans la circulation, stimulation, agression, allez avance pauvre con.
Qu'est-ce qui t'arrive papa? Dis-moi pourquoi tu t'énerves.
Je l'entends pas aujourd'hui, je suis coincé dans un rêve. Allez mon ange, sois sage et passe une bonne journée. Ma propre hypocrisie commence vraiment à me saouler. Youhou, maintenant direction le taf, l'éclate. Un lapin dans un clapier, 8 heures derrière un clavier. Ça fait 2 semaines que j'essaye de parler à mon patron. Je l'imagine souvent le soir découpé dans des cartons. Monsieur, pour mon augmentation,
on en parlera plus tard.
Dire que ça fait 15 ans que j'enfile ce putain de costard. Après j'irai chercher ma fille comme toujours. Je ne vois que l'ennui, où est passé ma vie, où est passé l'amour. Ce soir, la même bouffe de supermarché, haricots
inverse, t'es caché. On fera semblant de pas se fâcher. Mais j'ai encore trouvé des textos dans son téléphone. C'est pas la fin du monde, ça fait 2 ans qu'elle me trompe. Moi, comme d'hab, je dis rien, non. Comme d'hab, je suis à fond. Ce monde est trop pourri pour ma fille. J'ai honte, la routine, le premier jour comme le dernier. Attends, mais y'a pas un fusil dans le grenier. Le taf, l'angoisse, la vie, l'ennui, le temps qui passe, routine, ennui, l'amour, la mort, les rêves, l'envie, photo, sourire, encore la vie, le stress, le noir, les larmes, les cris, les klaxons, les sonneries. Je crois que ce soir, je vais faire une connerie. Seul, dans l'ombre, je suis comme monsieur tout le monde. J'avance, je tombe, je suis comme monsieur tout le monde. J'ai jeté l'éponge, comme monsieur tout le monde. Je plonge dans le plus sombre de mes songes. Seul, dans l'ombre, je suis comme monsieur tout le monde. J'avance, je tombe, je suis comme monsieur tout le monde. J'ai jeté l'éponge, comme monsieur tout le monde.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nous aurions quelques questions à vous poser au sujet de l'incident d'hier soir.
Oui.
Vous connaissiez le voisin?
Oui, oui.
Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur lui?
Sur lui? Je suis encore sous le choc étant donné que c'était un père exemplaire, voisin charmant, attentionné, un type normal, non rien de louche, qui ferait même pas de mal à une mouche. J'entendais chanter sous la douche, il m'aidait à descendre mes courses, un gars ordinaire, discret, sans histoire. Y'a ma maison à la télé, tout ça difficile d'y croire. À la radio c'est dingue, il parle de flingues, de rideaux en sang. Dire qu'on avait passé le dernier nouvel an ensemble. On parlait bricolage autour d'un verre, trinquant notre santé. Un monsieur tout le monde, mais personne s'y attendait.
Vous écoutez sur Radio Franca. Radio Franca, c'est la radio des enfants.
Voici de retour sur Tucneux. Toujours avec les 6e B. Nous allons nous intéresser maintenant un peu à l'Égypte ancienne. Célia et Tania, que pouvez-vous nous dire sur les chats à cette époque?
C'est Horus, le bon dieu, principe du bien et aussi le soleil, source de vie. Que représentent les sphinx, qu'on voit en statue immobile à l'entrée des temples égyptiens. Voilà pourquoi le lion à face humaine se retrouve partout en Égypte. Il ressemble à un gros chat, animal que l'on dit vénéré par ce temple antique. Qu'en était-il en réalité?
C'est vrai que le chat était l'un des nombreux animaux vénérés dans l'Égypte antique. Il était notamment associé au symbole de protection. Il avait le rôle de protecteur des récoltes, car il parcourait les champs et éliminait sans pitié tous les rats et les souris susceptibles d'endommager le fruit du travail des paysans. Or, le travail des champs au bord du Nil était indispensable et vital pour les Égyptiens de l'époque, car c'était le seul moyen de nourrir la population. Le chat rendait alors aux hommes un gros service.
C'est pour cela que les chats avaient autant d'importance, à tel point que lorsqu'ils mouraient, certains maîtres momifiaient leur corps et les enterraient dans des cimetières spéciaux. Est-ce que le chat a encore la même importance aujourd'hui?
Il n'est plus vu comme un être divin, mais il reste un animal de compagnie apprécié, l'un des préférés des Français.
Merci les filles. Maintenant, on va parler avec Noah de la momification. Quelle pratique étrange, n'est-ce pas?
Bonjour, je m'appelle Noah. La momification dans l'Égypte antique s'inscrivait dans un rituel funéraire. En Égypte, la conservation du corps était un symbole très important. La destruction de celui-ci représentait un risque très grave, car les Égyptiens à cette époque croyaient en l'immortalité. Et la momification avait comme but principal de purifier et de rendre divin le corps pour que celui-ci ait une nouvelle vie après la mort. C'est pourquoi, dès que le décès avait lieu, le corps était promis aux embaumeurs au milieu des pleureuses professionnelles, puis était transporté à l'ouest de la ville, dans un endroit élevé pour que les crues du nid ne puisse pas l'atteindre. La momification, ça consiste en l'action de momifier toute dépouille, humaine ou animale, c'est-à-dire conserver un cadavre, l'embaumeur. Là, dans un atelier, les embaumeurs lavaient le corps et procédaient aux diverses opérations de momification. Dans la durée était de 70 jours. On vidait le corps des viscères, cœur, poumons, cerveau, intestin, car ces parties-là pourrissaient et on le séchait au soleil ou dans une solution salée. Puis on l'enduisait de plusieurs couches d'huile végétale et animale. À la place des viscères, on mettait des plantes et des aromates. puis commencer la pose des bandelettes après avoir disposé les allumettes. Sur le mort, ensuite, le corps était placé dans un sarcophage peint et gravé. Parfois, on recouvrait le visage d'un masque qui ressemblait au mort. Les allumettes étaient des petits objets qui protégeaient le mort jusqu'à sa dernière demeure. La famille et les pleureuses venaient ensuite chercher le corps et une procession, c'est-à-dire un défilé conduit par les prés, emmenait le défunt jusqu'à sa tombe. Bien sûr, ceci n'était pas valable. Que pour les personnes aisées, c'était différent. Pour les gens pauvres, cependant, même pour eux, une momification avait lieu moins poussé, mais toujours présent. Car tout Égyptien devait pouvoir atteindre une vie après la mort. Ça faisait partie de leur voyance il y a 500 000 ans.
Maintenant, on va parler d'un pharaon célèbre, pourtant mort jeune. Toutankhamon et sa malédiction. Amir et Ambelin, que savez-vous sur le sujet ?
Bonjour. La malédiction du pharaon, appelée aussi malédiction de Toutankhamon, est une légende qui est née au début du XXe siècle. Les médias et les journaux de l'époque en ont beaucoup parlé. La légende prétend que certains membres de l'équipe d'archéologues qui ont découvert la momie du pharaon Toutankhamon en 1922, après être entrés dans son tombeau situé dans la vallée des rois en Égypte, seraient morts de causes surnaturelles à la suite d'une malédiction lancée par le pharaon décédé. C'est vrai que plusieurs membres de l'équipe sont morts précipitamment quelques années après la découverte de la momie, et notamment Lord Carnarvon, le commanditaire des fouilles.
Mais qui était Toutankhamon ?
Il était le 11e pharaon de la 18e dynastie. Il était le fils d'Akhenaton, qu'il avait eu avec sa sœur. Quand il est mort, il n'avait que 18 ans. Les circonstances de sa mort sont inconnues. Il n'est probablement pas mort d'un accident de char, comme on l'avait longtemps cru. Ses parents étaient frères et sœurs, et à cause de cela, il souffrait de nombreuses infirmités. Affaibli par des tares génétiques, Toutankhamon aurait pu souffrir de la malaria et d'une mauvaise fracture de la jambe peu avant son décès.
Qu'a-t-on trouvé dans sa tombe ?
De nombreuses richesses, un trésor rempli d'objets en or. En tout, 4000 objets se trouvaient dans le tombeau. D'ailleurs, une exposition est organisée à Paris du 23 mars jusqu'au 15 septembre 2019. On y pourra y voir 150 des plus beaux objets sortis de son tombeau.
Combien de personnes ayant participé à la découverte de ce tombeau sont mortes précipitamment ?
27 personnes seraient mortes de causes suspectes. Les spécialistes racontent qu'ils sont tombés sur un tombeau toxique, mais ce sont surtout les journalistes qui ont développé le mythe de la malédiction.
Nous allons maintenant quitter l'Égypte et l'Antiquité pour rejoindre l'Écosse. Dimitri, peux-tu nous parler du monstre du Loch Ness ?
Le monstre du Loch Ness est une attraction touristique apparue en 1930. Celui qu'on surnomme Nessie aurait vécu dans le lac du Loch Ness en Écosse, c'est-à-dire au nord de l'Europe et de l'Angleterre. Évidemment, rien ne prouve son existence, même pas les nombreuses photos anciennes, dont on a la preuve, pour certaines, qu'elles étaient truquées. Sur ces photos, le monstre ressemblait à une créature ayant existé il y a plusieurs millions d'années nommée Plésiosaur. Cette rumeur n'a fait qu'alimenter le tourisme dans la région du lac depuis près de 90 ans.
Merci Dimitri. Autre mystère, cette fois dans l'océan Atlantique, celui du triangle des Bermudes. Mathieu, que peux-tu nous dire sur ce sujet ?
Les théories scientifiques réalistes pour expliquer les disparitions enregistrées dans le triangle des Bermudes ne manquent pas. Bien que quelques catastrophes aient pu être expliquées, il faut quand même constater que personne n'arrive à comprendre vraiment ce qu'il se passe dans ce secteur.
Tout d'abord, ça se trouve où le triangle des Bermudes ?
Le triangle des Bermudes se trouve entre la Floride, Porto Rico et les îles des Bermudes dans l'océan Atlantique, pas très loin des États-Unis.
En quoi le triangle des Bermudes est-il un problème ?
Certes, la disparition d'un navire ou d'un avion dans les profondeurs de l'océan est beaucoup moins étrange que ne le serait celle d'un train entre deux gares, mais le nombre de disparitions et leurs caractéristiques disparition soudaine et souvent sans aucune trace retrouvée, soulève tout de même de nombreuses questions. Au vu de la fréquentation aérienne et maritime du secteur, de son relief et de sa météo imprévisible, il ne s'agit peut-être que d'erreurs humaines. Mais le triangle des Bermudes a des caractéristiques magnétiques un peu bizarres qui peuvent perturber les instruments ou faire perdre le nord à un pilote. Le danger pourrait venir aussi des profondeurs marines qui éjecteraient des gaz qui permettraient au péril les navires et les avions. Peut-être faut-il chercher une explication dans plusieurs de ces théories. À la fois, il n'est d'ailleurs pas rare que la cause d'un accident d'avion résulte d'une combinaison de plusieurs facteurs. Certains ont même cru que c'était la faute aux extraterrestres.
Voilà un mystère qui reste entier et qui clôt notre deuxième partie. À tout de suite pour la fin de notre présentation avec le dernier groupe.
Radio Franca, c'est la radio des enfants.
Dernière partie, vous êtes toujours avec les 6e B sur Radio Tchouknu. Dites-nous, Noah et Mathieu, d'où vient le nom des continents et océans ?
Rebonjour, c'est Noah. La Terre se compose de 7 continents, mais à sa création, il n'y avait qu'un seul appelé la Pangée. Il était entouré du seul océan, la Thalassa. Lassa. Ensuite, les territoires se sont séparés. L'Afrique, par exemple, vient certainement du nom que les Romains donnaient aux habitants de la Tunisie. Ils les appelaient Afri. Cette racine doit avait aussi pour traduction le mot noir, à cause de la couleur de peau, sa population. Amérique est au nom plus récent et vient du prénom de l'explorateur italien Amerigo, en français Aimerique Vespucci, qui a exploré le continent au début du 16e siècle. Et non, on n'a pas choisi le nom de Christophe Colomb, même si c'est lui qui a découvert le continent en 1492. Antarctique vient du nom grec anti, opposé, et arctos, la grande ours, c'est-à-dire le nord. Ce nom désigne donc le continent glacé situé au sud par opposition à la zone polaire nord appelée l'Arctique. Asie vient d'une langue ancienne et signifie le lever du soleil ou l'Orient, car elle se situe à l'est. A l'inverse, l'Europe vient peut-être de l'ancien mot herbe, ereb, qui signifie coucher du soleil, car l'Europe désigne l'ensemble des terres situées à l'ouest de l'Asie. Enfin, l'Océanie vient du mot océan, car il se compose de beaucoup d'îles au sud-ouest du Pacifique. Le pays le plus grand de ce continent est l'Australie.
Et d'où vient le nom des océans ?
Le mot océan a une origine mythique. Il vient du titan Okeanos, qui dans la mythologie grecque était avant Poséidon, le maître des eaux. Chaque océan a ensuite son nom propre. Par exemple, l'océan Atlantique tient son nom du titan Atlas, qui est dans la mythologie grecque, portrait la voûte terrestre sur ses épaules à l'ouest de l'Europe. L'océan Pacifique a reçu son nom de navigateur Magellan, qui l'a appelé ainsi car ses eaux étaient très calmes. L'océan Indien vient du peuple indien qui le borde. Si l'homme a donné un nom à chacun de ses continents et océans, c'est pour mieux se repérer sur la Terre.
Et les noms de famille, on les sort d'où ? Maëva et Célia vont nous éclairer. Maëva, pourquoi et depuis quand porte-t-on des noms de famille ?
En Europe, au Moyen-Âge, les noms de famille, ça n'existait pas. Jusqu'au XIe siècle, les personnes ne portaient qu'un nom de baptême. Mais au XIIe siècle, l'explosion démographique oblige les populations à donner des surnoms aux individus afin d'éviter les confusions, car ce sont souvent les mêmes noms qui reviennent. Alors, à partir du XVe siècle, un long processus de fixation des noms de famille débute. C'est ainsi que chaque habitant de chaque village se retrouva avec un nom plus tard appelé prénom et un surnom, le nom de famille.
Célia, quel pays a mis en place le premier nom de famille ?
La Chine est le pays à avoir utilisé le plus tôt le nom de famille. Là-bas, ça existe depuis 5000 ans environ. Les Romains, quant à eux, portaient trois noms. C'était le trianomina, un prénom, un nom de famille et un surnom. Par exemple, pour Jules César, ses trianomina étaient Caius Julius Caesar.
Comment ont été choisis les noms de famille ?
Pour donner des noms de famille, les populations de l'époque se sont basées souvent sur l'apparence physique ou leur métier. Par exemple, Monsieur ou Madame Petit, Monsieur ou Madame Boulanger. En Italie, en Belgique et au Luxembourg, l'enfant légitime porte obligatoirement le nom de son père.
Et en France, comment ça marche ? Quels noms peuvent prendre les enfants ?
L'enfant peut prendre le nom du père, de la mère ou des deux. Le nom de famille les plus portés en France sont Martin, par plus de 235 000 personnes. Bernard arrive en deuxième position avec 105 000 personnes. Thomas, 95 000 personnes. Puis on trouve Robert, Richard, etc.
Est-ce qu'on peut facilement changer de nom en France ? Ça marche comment ?
On peut changer de nom, mais que pour des raisons légitimes. Quand on a un nom vulgaire ou qui prête à moquerie, c'est le ministre de la Justice qui donne l'autorisation.
Merci. Dernière petite énigme pour ce jour. Peux-tu nous dire, Mathéo, pourquoi les Anglais roulent à gauche et nous à droite ?
Le sens de la circulation à gauche a longtemps été la règle, car la plupart des êtres humains étaient droitiers, nos ancêtres portant leur épée sur la jambe gauche pour la dégainer plus facilement. Donc, quand deux chevaliers se croisent, leurs épées ne peuvent pas se toucher, ce qui aurait été interprété comme une provocation en duel.
Mais alors, pourquoi roulons-nous à droite aujourd'hui ?
Car ce sont bien les Français qui ont modifié le sens de circulation et non les Anglais. Le développement des moyens de transport a joué un rôle important, mais il faut compter aussi sur Napoléon. Car pour prendre à revers ses ennemis, donc les armées avaient l'habitude d'attaquer par la gauche, il décida d'attaquer à droite. Sa nouvelle stratégie a donc imposé la circulation à droite. Quand arrive ensuite la première voiture, le frein à main est placé à l'extérieur du côté droit, donc le volant est à droite, mais on roule à droite, surtout pour surveiller le bord de la route, souvent en mauvais état. Puis, quand le frein à main est mis au centre de la voiture, le volant passe à gauche pour utiliser le frein à main avec sa main droite. Mais la conduite reste à droite pour mieux voir le véhicule qui arrive en face.
Est-ce que les Anglais sont les seuls à rouler à gauche ?
Non, d'autres pays roulent aussi à gauche, comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'île Maurice, l'Indonésie, la Thaïlande, le Népal, l'Irlande, les Seychelles, Singapour, l'Inde, le Japon, le Maldives et le Zimbabwe.
Merci beaucoup à nos animateurs pour toutes ces rubriques intéressantes. Et merci pour votre écoute. Bonne journée à tous. We're gonna praise it.